Vous êtes sur RTL.
RTL Matin.
6 minutes pour trancher.
8h21, merci à vous tous qui écoutez RTL en ce 2 janvier. C'est un achat qui avait suscité crainte et indignation en 2015. L'aéroport de Toulouse-Blagnac, vendu à un consortium chinois pour 300 millions. Après 4 ans de gestion, c'est le groupe Eiffage qui vient de le racheter, avec au passage près de 200 millions d'euros de plus-value pour le groupe chinois. Bonjour Xavier Tittelmann.
Bonjour Flavie.
Vous êtes ex-aviateur militaire, consultant aéronautique et fondateur des stages Peur Avion. Bonjour aussi Alain Wang.
Bonjour.
Professeur à Centrale, sinologue, spécialiste de l'économie des entreprises et je le rappelle, auteur des Chinois, paru chez Talendier. Ce rachat vient conclure un feuilleton économico-diplomatique qui dure depuis 2015. On pensait que la Chine voulait investir en France et pérenniser ses achats. Et finalement, ils vendent. Est-ce que c'est étonnant comme stratégie, Xavier Tittelmann ?
C'est pas à la hauteur des engagements qui avaient été pris. C'est-à-dire que l'entreprise avait été vendue, l'aéroport, pour un certain montant, avec une volonté d'être présent sur plusieurs décennies, un engagement d'investissement de plus de 800 millions d'euros qui devait arriver sur plusieurs décennies. Ouais. Et c'est exactement le contraire qui s'est passé. Le problème, c'est que les Chinois n'ont pas respecté leurs engagements, alors que l'État français, qui s'était engagé par un pacte d'actionnaires à voter toutes les décisions de Casil, a finalement voté à chaque fois. C'est-à-dire que non seulement ils ont revendu avec une grosse plus-value, mais en plus ils ont réussi à vider les caisses, à vider les réserves, à modifier les règles comptables pour augmenter leurs dividendes. Et les dividendes augmentant, du coup la valorisation, la faciale augmente, et donc ils ont pu le revendre avec une plus-value incroyable.
Bon, donc on s'est fait totalement avoir, si je dois résumer en une phrase.
Oui.
Bon, Alain Wang, est-ce que vous êtes surpris, je vous vois sourire, est-ce que vous êtes surpris de ce qui vient de se passer ?
Non, pas du tout, parce que je crois qu'on est dans deux époques différentes de la Chine. On est l'époque de 2014-2015, on est dans une Chine conquérante, qui veut acheter un peu partout dans le monde, qui investit, qui fait des investissements, on va dire aux États-Unis, en Europe, dans des infrastructures stratégiques, et puis il y a la crise économique qui commence en Chine. Je veux dire, l'économie chinoise ne va pas très bien. Et donc, le gouvernement met un peu le holà sur tous les investissements qui sont faits tout azimut. Et donc, je pense que l'aéroport fait partie du holà.
Alors, il y a quelque chose qu'on a toujours un petit peu de mal à comprendre. On parle de consortium chinois. On a l'impression qu'il agit comme une entreprise, par exemple, américaine ou privée. Et on se demande toujours si la main gouvernementale de l'autorité du pays chinois, de la nation, si je puis dire, et du gouvernement est toujours derrière.
Là, elle est totalement derrière, parce que quand on regarde les entreprises qui font partie du consortium du côté chinois, si on regarde leur nom, on voit très bien qu'ils sont soit elles appartiennent à une province, ou ils appartiennent directement, je veux dire, au gouvernement chinois sur le plan des investissements. Donc, et on ne peut pas séparer l'État chinois des investissements majeurs qui sont faits.
Donc, clairement, vous, votre analyse ce matin, c'est de nous dire ce qui se passe, c'est les difficultés en Chine amènent le consortium tout simplement à retirer ses billes, à prendre sa plus-value pendant qu'il peut le faire. Parce que ça ne va pas bien en Chine en ce moment.
On peut le dire, parce qu'on peut observer aussi ce qui se passe, par exemple, avec Wangda, qui devait investir dans le triangle des Gonesses pour créer un énorme plateau de commerce, etc., et de loisirs, et qui s'est retiré en 2017. On peut le voir aussi avec Ashena, qui devait investir aussi, qui s'est retiré. On voit progressivement un certain nombre de grands projets que la Chine avait en France, mais partout dans le monde, elle est en train de se retirer.
Je vais revenir à la situation de Toulouse, mais du coup, puisque vous faites cette analyse, il se trouve que ce matin, François Langlais évoquait la possibilité d'une vraie crise économique en Chine en 2020. C'est quelque chose auquel on peut s'attendre.
C'est quelque chose qui est potentiel. Ça va dépendre beaucoup, on va dire, de la signature ou non d'un véritable accord avec les Américains mi-janvier. Est-ce que Trump signera véritablement un accord ? La phase 2, comme il dit, est-ce qu'on va aller vers la phase 2 ou pas ?
Mais ça veut dire que le président Trump a entre ses mains en ce moment l'avenir de l'économie chinoise, ou en tout cas l'avenir d'une partie de l'économie chinoise ?
Il a en partie dans ses mains l'avenir de l'économie chinoise et mondiale, je dirais, quelque part.
Ben bien sûr. Car ça nous concerne tous. Dites donc, les élus locaux, Xavier Tittelmann, ne décolèrent pas, et on peut le comprendre. Est-ce qu'on a été naïfs ? En même temps, il n'y a pas de raison de faire, j'ai envie de vous dire, de racisme économique anti-chinois. Ils arrivent sur le territoire, on sait qu'ils ont, en tout cas, ils avaient de l'argent à investir, et ce n'était pas une mauvaise chose sur le papier de les voir arriver, on est bien d'accord.
Non, il y avait un plan de développement qui était intéressant, il y avait l'ouverture potentielle de lignes vers la Chine, il y avait vraiment une volonté de croissance sur l'aéroport, et on était tout à fait favorable. Est-ce que ça marche bien ? Parce que l'objectif local également, c'est évidemment d'avoir une croissance. La Chambre de commerce, tous les investisseurs locaux, voilà, il y en a certains qui étaient défavorables à cette situation. Néanmoins, personne n'avait mis vraiment un veto à ce moment-là. il y avait ce choix stratégique d'avoir les Chinois, d'avoir une volonté sur le long terme, une vision ensemble. Le problème, c'est que les Chinois n'ont pas respecté le pacte d'actionnaires, alors que l'État français a respecté son pacte d'actionnaires.
Et je vais vous dire, c'est normal qu'on ait respecté notre pacte, d'une certaine façon. Après, je comprends bien que dans votre réponse, mais vous suggérez qu'à un moment, on aurait dû réagir, c'est ça ?
Quand vous avez l'actionnaire chinois qui s'oppose aux actionnaires locaux, et que nous, alors le Chinois ne respecte pas, mais nous, on va quand même respecter notre parole, contre les intérêts locaux, c'est quelque chose quand même qui n'est pas acceptable. Il y a un moment, peut-être que l'État aurait dû se prendre un petit peu de recul et dire, effectivement, on ne va peut-être pas distribuer tous les dividendes vu que vous êtes en train d'essayer de partir de vendre.
Oui, on l'a vu arriver. Alors, quand même.
On est fiers, on a notre parole, on a notre signature. La France a une parole qui est fiable. Malheureusement, parfois, il faut être un petit peu plus proche de la réalité.
Et Alain Wang est effondré de rire. Expliquez-moi pourquoi vous nous trouvez naïfs.
Je trouve souvent les Européens très naïfs parce qu'ils ont quand même une expérience en Chine qui leur montre qu'à chaque fois que des coopérations sont menées en Chine, les Chinois respectent pas du tout leur parole. C'est-à-dire qu'il y a un contrat de base, mais ils sont très pragmatiques et on s'arrête pas au contrat de base. C'est-à-dire on évolue en fonction de la situation.
On devrait
la situation.
Aussi.
Alors parce que nous on regarde de notre côté, mais eux ils regardent de leur côté. Et la situation en Chine évolue économiquement, donc ils évoluent en fonction de leur propre situation pour prendre des décisions. Et ils sont pas forcément favorables, on va dire, à ce qui se passe en France ou pour l'actionnaire français.
Vous aviez titré mal.
Non, mais s'ils sont pragmatiques, il faudrait aussi qu'on le soit et qu'on accepte de ne pas respecter notre parole pour, de la même manière, ne pas les laisser vider les caisses. Il y avait des réserves qui avaient été cumulées depuis des années.
Oui.
Ils ont réussi à les vider. Il y avait une évolution. Alors, la comptabilité, c'est quelque chose quand même établi.
Oui.
Là, ils ont réussi à allonger les périodes d'amortissement des matériaux, enfin, de ce qu'on avait investi auparavant pour pouvoir augmenter artificiellement les dividendes. Tout ça, c'est injuste quand on le regarde maintenant, évidemment.
Quand vous le décrivez, c'est absolument affolant, mais j'ai envie de vous dire que...
C'est peut-être
pas
visible.
Peut-être pouvait-on le voir arriver, mais en même temps, moi j'imagine bien, alors les élus locaux qui gueulent aujourd'hui, on les comprend très bien, et la naïveté française, au départ, on a envie qu'ils tiennent, on a envie que ça marche. Il est logique, j'ai envie de vous dire qu'on ait fait quelques efforts supplémentaires pour que cette opération puisse tenir le coup. Simplement, visiblement, on s'est fait avoir, quoi. C'est aussi bête que ça.
Oui, complètement.
Alors, en vous écoutant à la Wang, il y a quelques instants, je me disais, mais en fait, c'est impossible, de commercer avec les Chinois. Ou alors, il faut appliquer les mêmes méthodes, et ça n'est pas ni dans nos codes de valeur, ni dans nos codes administratifs. Donc, comment on se sort de cette affaire absolument incroyable ? Non seulement celle-là, mais d'une façon générale, le commerce avec ce très grand pays avec qui on a besoin de commercer, et qui, lui, a besoin de commercer avec nous.
Je crois que l'Europe avait quand même donné... la Commission européenne avait quand même donné un petit indice, puisqu'ils ont placé la Chine comme concurrente ou rivale systémique. C'est quand même, par hasard, c'est des mots qui sont quand même assez...
Ça veut dire un ennemi.
Et dans ce cadre-là, il faut bien voir qu'aujourd'hui, la Chine est en train de redécider le monde, je dirais, sur le plan économique, à travers ces structures qu'il met en place à travers des routes de la soie et qui sont totalement concurrentes aux structures, aux agences qui ont été établies par l'Occident à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc la Chine est en train de redessiner le monde à son profit. Donc il faut faire attention, je veux dire.
Et même de redessiner l'Europe, parce qu'on les voit investir alors individuellement, en tête à tête, s'ils ne parlent pas avec l'Europe dans ces cas-là, mais c'est le cas au Portugal. Ça a été le cas en Grèce, bien
Italie
entendu,
récemment,
en Italie récemment.
Portugal.
Donc ils font leur marché tranquillement.
Font leur marché tranquillement. Bon. L'Europe n'est pas unie, il n'y a pas une voie commune, donc ils jouent sur un terrain qui leur est tout à fait favorable et ils vont continuer. De toute façon, il n'y a pas de raison qu'ils s'arrêtent.
Bon, alors l'arrivée des phages, essayons quand même d'être un petit peu positif.
Ah, tout à fait.
Voilà, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les Toulousains et pour leur aéroport ?
Oui. Parce que déjà, là, vu le prix où ils l'ont acheté, ils ne peuvent pas essayer de faire une plus-value en 3 semaines et repartir en prenant beaucoup d'argent.
Non.
Donc là, ils ont une vraie vision stratégique sur plusieurs décennies. Ils s'y engagent, on peut dire que c'est une vraie volonté de leur part. Et puis, ils essaient de monter dans l'aéroportuaire. Ils avaient déjà l'aéroport de Lille. Maintenant, ils ont Toulouse, qui est quand même la 5e plateforme française, qui va monter largement parce qu'on a une croissance locale avec de plus en plus de vols long courriers depuis des aéroports et des capitales régionales, ce qui n'était pas possible avec les avions précédents.
Donc, c'est une bonne chose.
C'est une très bonne chose parce qu'on va pouvoir éviter de passer par les hubs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui voulait faire un New York, un Baltimore-Toulouse devait passer par New York, puis par Paris avant de faire 3 escales. Là, on pourra faire des vols peut-être une fois par semaine, ces vols en direct. Donc c'est économiquement intéressant et écologiquement bon également. Et ça désengorge les aéroports qui sont très saturés comme Paris, Amsterdam, etc.
Une toute dernière question, Alain Wang. En fait, quand on commerce avec les Chinois, il faut accepter le rapport de force et ne jamais se montrer faible.
Tout à fait. Je pense qu'on a malheureusement, c'est le personnage est ce qu'il est, Donald Trump, mais je pense qu'il a bien compris la situation et il le fait.
Et donc lui obtiendra des résultats, quoi qu'il arrive, en tout cas dans ses rapports de force avec la Chine du commerce.
On va voir s'il va pousser jusqu'au bout, mais il est en capacité de le faire.
Merci beaucoup l'un et l'autre, en tout cas, d'être venus évoquer cette situation tout à fait spécifique concernant l'aéroport de Toulouse-Blagnac, dont on espère qu'il allait se porter mieux. En tout cas, le groupe chinois qui avait mis de l'argent, lui, est reparti les poches pleines. Merci à Xavier Tittelmann, dont je rappelle qu'il est consultant en aéronautique et fondateur des stages Peur Avion, et Alain Wang, sinologue spécialiste de l'économie des entreprises et auteur des Chinois, paru aux éditions Talendier. À tous les deux, je souhaite une excellente année.
Bonne année.
Bonne année.
L'actualité vous concerne.
Venez en débattre au 3210 sur RTL. 50 centimes.